Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur RMC à la radio, RMC Story, à la télé, canal 23 de la TNT. Vous êtes dans Estelle Midi et on est ravis d'être avec vous chaque jour de midi à 15h, d'autant plus que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et à nous regarder. Et ça nous fait un immense plaisir aujourd'hui. Autour de la table, on retrouve Rémi Barré. Bonjour Rémi.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
On retrouve également notre journaliste Daniel Riolo. Salut Daniel.
Salut tout le monde.
Ça va bien?
Très bien.
Daniel qui est comme Donald Trump, il a récupéré son compte Twitter.
Ah, je suis content que tu l'aies remarqué.
Bien sûr. On ne parle...
c'était un peu l'événement de la semaine.
Exactement, on ne parle que de ça. Le journaliste aux médias, mais pas que, Thierry Moreau. Salut Thierry.
Bonjour à tous, bonjour Estelle.
Et puis enfin, notre professeur et sociologue, professeur à Sciences Po et à HEC, Julien Damon. Salut Julien.
Bonjour.
Dites donc, vous êtes en train de vous lomériser.
Oui, absolument.
Votre petit col roulé.
Oui, oui, je me suis habillé comme nous l'indique le ministre des Finances.
Il y a presque une petite ressemblance, si on pousse
un peu. Oui, il y a un petit truc.
Mais c'est un beau garçon, hein.
Oui,
tant mieux, alors.
Et moi aussi.
Oui, il y a quelque chose. Allez, au sommaire aujourd'hui dans Estelle Midi, 72% des Français désormais opposés à la réforme des retraites. Le gouvernement doit-il reculer? Dites-nous tout au 32-16. À midi et demi, on parlera de la mairie de Toulouse qui supprime des ateliers lecture pour enfants animés par des drag queens. Est-ce que c'est logique ou choquant? À 13h, l'enquête de 60 millions de consommateurs sur les services publics. Numéro injoignable, dysfonctionnement, réponse inadaptée. Faut-il remettre de l'humain dans ces services? On vous attend sur l'application RMC. À 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. 13h45, la Minute Conso avec Stéphane Pedrazzi. On parlera du changement de nom. 40 000 Français ont décidé de changer de nom ces 6 derniers mois. On verra combien ça coûte et comment on fait avec Stéphane. À 14h, plus d'un salarié sur 3 serait prêt à diminuer son salaire en échange de la semaine de 4 jours. Seriez-vous prêt à travailler moins pour gagner moins? On attend toutes vos réactions au 32-16.
RMC Estelle Midi.
Midi 5 sur RMC et on va démarrer tout de suite Estelle Midi avec le chiffre du jour. 72% des Français se disent désormais opposés à la réforme des retraites selon un sondage Elab. C'est 13 points de plus qu'il y a 2 semaines. Un coup dur pour le gouvernement, d'autant plus Rémi qu'aucune catégorie d'âge ou sociale ne soutient désormais cette réforme.
Mais l'opinion se crispe clairement. 72% des Français, tu l'as dit, qui rejettent le projet de réforme des retraites. C'est 6 points de plus en une semaine et parmi les personnes hostiles, elles sont 40% à se dire très opposé à ce texte. C'est une progression de 18 points en 15 jours. Élément encore plus notable, le renversement de l'opinion d'une majorité de retraités. Ils sont désormais 59% à dire leur opposition au projet, en hausse de 13 points sur une semaine. Toutes les catégories socio-professionnelles rejettent désormais le texte, à commencer par les Français appartenant aux professions intermédiaires, pour résumer, on va dire la classe moyenne, avec 81% d'opposants, suivi de près par les ouvriers et les employés, 80% de personnes hostiles au texte. Pour ce qui est de la couleur politique, si 68% des électeurs d'Emmanuel Macron soutiennent encore la réforme, tous les autres la rejettent, à commencer par les partisans de Jean-Luc Mélenchon. 88% sont hostiles au projet de réforme, 82% pour ceux de Marine Le Pen. Et rien à voir avec un rejet d'Emmanuel Macron en tant que tel. En tout cas, c'est ce que dit cette étude Elab. Selon les personnes interrogées, 84% des opposants à la réforme revendiquent l'être en raison de son contenu et non pour combattre le gouvernement.
Plus de deux tiers des Français opposés à cette réforme. Le gouvernement doit-il reculer, Julien Damon?
Alors le chiffre du jour, en effet, c'est 72% des Français opposés conjoncturellement à la réforme. Le chiffre structurel, c'est 25 ans. Alors il y a plein de chiffres qu'on s'envoie à la figure sur les retraites. Moi, mon chiffre préféré, c'est 25 ans. 25 ans, c'est le temps moyen passé à la retraite par les Français et nous sommes les champions du monde en la matière. Alors on peut s'envoyer plein de chiffres à la figure, peut-être le fais-je là, mais celui-ci est simple à comprendre et montre que il paraît difficile de soutenir longtemps notre système par répartition. Il faut le réformer. Que le président de la République et son gouvernement se soient mal emmanchés là dans cette réforme, que les retraités qui étaient favorables il y a une semaine désormais considèrent que la réforme ne leur plaît plus, bah oui, ce sont des constats politiques. Il n'empêche que la réforme est fondamentale. Alors la réforme, elle est faite de plein d'éléments. Elle est faite de plein d'éléments. Certains sont très favorables aux retraités, ne serait-ce que sur le minimum vieillesse ou les petites retraites. Maintenant, les Français ne veulent pas travailler davantage. C'est pas la, pas, enfin, à mon avis, c'est-à-dire pas tant la réforme que les Français ne veulent pas. Ils ne veulent pas travailler les 1 ou 2 ans de plus. Et c'est pourtant nécessaire. Alors, ayant dit ça, je me range dans le compte, pas forcément des macronistes fous, mais des raisonnables par rapport à l'équilibre de notre système de finances publiques
et
de
retraite. Mais tu peux la faire différemment. Par exemple, il y a toujours pas d'équilibre entre le public et le privé. Il y a plein de choses à faire.
Alors, je vais pas défendre la réforme. Enfin,
il y a quand même. Il y a un moment où tu peux pas continuer à avoir une telle différence entre le public et le privé sur les retraites.
Mais dans la réforme
telle qu'elle est, 25 ans, c'est pas possible. Il y a plein de Français qui sont pour la suppression des régimes spéciaux, et tu sais très bien qu'avec les grèves de la SNCF, etc., le gouvernement à un moment va dire on va pas toucher à ça.
Je suis content de t'entendre dire ça, parce que c'est pas assez dit. Et en fait, c'est un peu ce que tu dis, Julien, c'est que on se braque sur certains chiffres ou sur certains aspects, alors qu'il y a énormément de choses dedans. Et si on veut se balancer des chiffres pour des chiffres, bon, alors il semble que la seule issue, ce soit le blocage, la baston. Je viens de voir passer un sondage qui est tout aussi sérieux, qui était à peu près dans la même veine que celui-ci, Elab, qui a sorti un sondage de 72%. 42% n'approuvent pas le blocage. Bon, une petite ouverture.
Il n'y a pas trop de blocage, François, ça se passe plutôt de manière pacifique, et c'est bien promis
par certaines personnes. 57% qui verraient le blocage comme peut-être le seul moyen. Moi, dans ces chiffres-là, je vois peut-être l'option d'une ouverture de dialogue. Un dialogue qui doit commencer, on est bien d'accord, parce qu'il va y avoir les discussions à l'Assemblée début février, j'ai plus la date exacte en tête. Est-ce qu'il y a possibilité d'amélioration du texte? C'est possible, mais si on va à l'Assemblée, les opposants, uniquement pour balancer des tonnes et des tonnes et des sauts d'amendements, qu'on ne promet que la baston dans la rue, qu'on ne promet que le blocage, ça va être difficile. C'est pour ça, Estelle, que je voulais que tu insistes là-dessus, que tu dises, mais est-ce que réellement on évoque tous les petits points qu'il y a? Est-ce que, par exemple, on a fait un sondage pour demander aux Français, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'il y ait une égalité ou pour qu'on continue à avoir le spectacle de ces régimes spéciaux, des gens qui ne sont pas tous traités de la même façon? J'aimerais bien le résultat sur ce sondage-là, comme celui que tu as évoqué sur le minimum vieillesse, qui est une bonne chose aussi, je pense que tout le monde va l'approuver. Mais ce dialogue-là, j'ai l'impression qu'il y en a plein qui n'en veulent pas. Et d'ailleurs, si vous écoutez les opposants, il y a eu un débat sur BFM. Est-ce que donc les grands pôles d'opposition, donc c'est LFI et RN. Ok, Bardella il fait des vannes, il est plutôt bon dans les vannes, tu vois, il peut faire un peu marrer. Et de l'autre côté, c'est quoi les propositions dans les deux camps?
Mais ça, c'est vrai, Emmanuel Macron qui pendant sa campagne n'a parlé que de l'âge de 65 ans.
Quelles sont les propositions à part? Exact. Merci Thierry. Bah toi, comme quoi finalement, si on pense un peu, ça peut être
une proposition.
Il y a aussi la proposition délirante de revenir à 60 ans.
Taxer
les riches, ça veut rien dire. Est-ce que elle dit, c'était Mathilde Panot qui était sur le plateau. Ouais, il faut aller taper dans la poche des milliardaires, mais qui sont? Est-ce que c'est des revenus? Est-ce que c'est des milliards qui dorment sur des comptes en banque? Ou est-ce que c'est des bouts de capitalisation? Ça rime à rien.
Non, c'est le modem qui a dit travailler 35h30 au lieu de 35. T'as des propositions quand même.
Plus profondément, et je crois qu'il y a un débat un petit peu plus tard dans l'émission, Gava, je crois qu'on a un vrai problème dans ce pays, dans le rapport au travail. Et ça, c'est un problème qui est historique et culturel.
Rémi, tu voulais intervenir, vas-y.
Pour répondre à ta question, Daniel, j'ai retrouvé un sondage IFOP qui avait été réalisé avant la présidentielle, la dernière présidentielle, où 53% des Français souhaitaient que les régimes spéciaux de retraite soient supprimés dans le pays.
Mais 53%, je trouve que c'est peu. Et
comme qu'on n'avait pas le texte actuel à l'époque, 64% des Français étaient également pour une réforme des retraites.
Mais pas cette réforme.
On n'avait pas cet accès.
Thierry Moreau, est-ce que là, le fait qu'il y ait autant de Français qui soient défavorables à la retraite, ça peut faire réfléchir et pourquoi pas reculer le gouvernement?
Ça va être compliqué. Alors, moi déjà, je pense que le gouvernement ne doit pas reculer parce que la réforme est nécessaire. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est qu'il doit amender son texte pour le rendre acceptable. Moi, je continue de penser que la meilleure réforme, c'était celle qui était proposée la première fois, la réforme par points. 1 euro cotisé était 1 euro qu'on retrouvait au bout du compte à la retraite. Et les syndicats comme la CFDT étaient prêts à en discuter. Donc, on avait un terreau favorable. Aujourd'hui, on a un âge légal butoir pivot, on l'appelle comme on veut, à 64 ans, qui focalise en fait tous les mécontentements, avec une population dont, Rémi l'a rappelé, toutes les strates, toutes les couches bloquent là-dessus et sont mécontents. Pourquoi ils sont mécontents? Il y a une explication à ce sondage. C'est qu'on a tous autour de nous quelqu'un qui va être pénalisé par cette réforme. Soit une femme qui a une retraite hachée, soit quelqu'un qui pense être touché.
Soit une femme qui n'a pas eu de coupure.
Pas eu de coupure.
Durant toute sa carrière.
Ou alors quelqu'un qui pensait toucher 1200 euros, puis on lui apprend que finalement c'est plus du brut, c'est plus du net que c'est du brut. Donc tout le monde a des raisons de ou connaît quelqu'un. Donc c'est pour ça qu'il y a une sorte d'agrégation des mécontentements. Moi je ne crois pas à l'agrégation des luttes parce que je pense que les syndicats sont divisés sur la façon de continuer le mouvement. CFDT veut faire des grèves le samedi, la CGT veut faire des blocages, etc. Donc je ne crois pas à l'agrégation des luttes. En revanche je crois à une agrégation des mécontentements et il faut faire attention parce que dans ce, ça veut dire aussi que la pédagogie n'a pas fonctionné. Depuis le début, la pédagogie du
gouvernement
est
beaucoup,
une
hein.
catastrophe.
Oui, mais est-ce qu'on a quand on dit ça, Thierry, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses que c'est...
J'aurais terminé après. Mais
la pédagogie, c'est la référence, c'est l'école. Est-ce que tu crois que le prof s'est mal exprimé ou que l'élève n'avait pas envie d'être dans la classe pour écouter?
Je pense qu'il ne s'est pas exprimé.
Il y avait deux types de pédagogie.
Ils se sont pas exprimés avant. C'est-à-dire qu'Elisabeth Borne, elle est arrivée derrière son pupitre. Elle est arrivée.
C'est à moi qui posais la question. Hein.
Elle est arrivée derrière son pupitre, Elisabeth Borne, et en fait, elle a donné sa réforme. On n'en a pas entendu parler avant. Il n'y a pas eu de débat. Il y a eu des débats avec les syndicats.
Que c'est comme ça.
Mais les Français, ils ont donné leur avis avant. On leur a pas demandé leur avis. On est arrivé. On leur a assigné un truc.
C'était dans le programme présidentiel et Rémi vient de donner le chiffre.
Il y avait que l'âge dans le
pour répondre à ta question, il y avait deux types de pédagogie. Une pédagogie, je dirais, technique, c'est-à-dire expliquer vraiment ce que ça va changer et là où on peut éventuellement améliorer les choses. Et une pédagogie politique qui a été tardive, comme l'a dit Estelle, parce que le truc est arrivé et puis on savait déjà même pas trop, parce que comme le texte n'était pas encore présenté, on pouvait pas trop en parler, rentrer dans les détails. Donc la pédagogie politique n'a pas fonctionné.
Mais je vois pas comment.
Là où il faut se méfier, c'est que l'agrégation des mécontentements dont je parlais tout à l'heure, on peut arriver à une situation de 95 où des gens n'ont pas fait grève, mais ont fait de la grève par procuration en soutenant le mouvement.
Absolument.
Et c'est ça qui est dangereux.
On a beaucoup d'appels au 32-16 pour réagir à ce chiffre donc de ces 72% de Français désormais opposés à la réforme. Ludo est cheminot SNCF depuis 17 ans, il nous appelle de Damary-l'Élysée. Bonjour Ludo.
Bonjour Estelle, c'est un plaisir de vous entendre, bonjour à toute l'équipe.
Bah merci Ludo, c'est un plaisir de vous avoir. Ludo, est-ce que vous, en tant que cheminot, vous êtes opposé à cette réforme?
Mais bien évidemment. Mais en fait, je pense qu'on prend le problème dans le mauvais sens. C'est que, bien évidemment, le gouvernement va vouloir...
Ludo, on vous entend très très mal. Il faut soit couper votre télé, votre radio, c'est très haché. Vous parlez à côté de votre combiné, mais on vous entend très très mal.
Ah ben, je suis sur le téléphone.
D'accord, bon bah écoutez, on vous entend
très grisille,
mal.
Ça grésille en tout cas.
Vous avez... Ludo, on va vous rappeler. On va vous rappeler parce que là, c'est assez désagréable et c'est très dommage. On va prendre Céline Verzelletti en ligne, c'est notre invitée sur ce débat, une grande habituée d'Estelle Midi et secrétaire confédérale de la CGT. Bonjour Céline.
Bonjour.
Et Céline, bonjour. Merci d'être avec nous dans Estelle Midi. Ça fait de nombreuses fois qu'on vous appelle pour ces débats, évidemment, sur la réforme des retraites. J'imagine que ce chiffre de plus de deux tiers de Français défavorables à la réforme, ça doit vous faire chaud au cœur.
Ah ben oui, c'est clair, hein, parce que c'est vrai que plus le temps passe, plus le gouvernement s'enlise avec des arguments qui finalement n'en sont pas vraiment, et plus les mécontents par rapport à la réforme et ceux qui sont opposés donc sont de plus en plus nombreux. Bon voilà, et plus le contenu de la réforme est précis avec des chiffres, avec des études d'impact, et plus on s'aperçoit les uns les autres qu'en effet. Eh bien, finalement, il n'y a pas de gagnant vis-à-vis de cette réforme.
Ah bah si, les petites retraites carrière complète, si. Nous, il y a beaucoup de gens qui nous appellent dans Estelle Midi qui gagnent 800 euros de retraite, ils vont passer à 1200. Ça, ce sont des gagnants.
Je pense que certains vont avoir des surprises parce que on a l'impression que tous ceux qui ont des petites retraites moins de 1000 euros vont avoir 200 euros. C'est pas tout à fait vrai puisque seulement ceux qui ont véritablement des carrières complètes à temps complet.
Ah oui, mais c'est déjà ça.
Euros, pas les autres, oui.
Oui, mais ceux-là, pour
c'est
le coup,
mieux qu'avant.
Ça risque de faire. Enfin, quand vous passez de 800 à 1200, quand même, il y a quand même un avantage.
De 800 à 1200, je vous assure qu'il y en a très peu. Et c'est pour ça que c'est mal compris parce qu'on a l'impression que tous ceux qui sont en dessous de 1200 euros auront les 1200 euros, ce qui est complètement faux. Mais bon, bref. Mais il y aura des majorations pour ceux qui ont le minimum contributif. Mais des majorations
mais
qui sont pas de l'ordre de 800 à 1200 euros, c'est pas tout à fait ça. Mais bon, bref, quoi qu'il en soit, oui, il y a quelques évolutions pour une certaine partie de la population. Mais ce qui est sûr, c'est que tout le monde va devoir travailler plus. Oui, ça c'est sûr. Certitude. Voilà. Donc ça, forcément, la population est opposée parce que ce qu'elle sait aussi, contrairement à ce qu'a pu dire le gouvernement, c'est que cette réforme n'est pas justifiée et qu'aujourd'hui le système de retraite n'est pas en péril, contrairement à ce qu'a pu dire le gouvernement. Ouais,
non, c'est l'université. Il n'est pas en péril tout de suite, mais il le sera après. Mais Daniel Riolo posait une question intéressante il y a un instant. Il disait, mais la rue propose quoi quelque part? Ok, vous êtes contre la réforme des retraites. Je peux l'entendre. Oui. Mais vous proposez
quoi? La société, ça va être simple. Hein, si on travaille plus. Et on paye les gens.
C'est assez caricatural. Non, mais
le dialogue avec la CGT.
On a des propositions.
Alors, allez-y, Céline.
Si vous pensez que la CFDT est plus crédible, elle aussi, elle est contre donc, le report de l'âge de la retraite. Donc, toutes les organisations syndicales sont contre le report de l'âge de la retraite. Nous, on pense que les dépenses sont maîtrisées, comme a pu le dire le président du Conseil d'orientation des retraites.
Mais il ne dit pas que ça, Céline.
Par contre, oui, il faut aller chercher de nouvelles recettes. Ça, on est d'accord. Donc, on a des propositions pour aller chercher ces nouvelles recettes. Et donc, les propositions, par exemple, alors vous allez nous me dire, oh là là, c'est pas possible. Bon.
Oh là là, c'est pas possible.
Taxer les riches.
Proposition, il y a l'augmentation des rémunérations, augmentation du SMIC, augmentation de tous les fonctionnaires. Et là, pour le coup, ça augmente les cotisations, donc ça remplit un petit peu les caisses de la sécurité sociale. C'est rendre effective l'égalité des femmes.
Mais augmenter les fonctionnaires, ça augmente le déficit public, ça augmente tous les déficits.
Tout le monde y est favorable et on en est loin aujourd'hui. Hein, la différence, elle est toujours de 28%, ce qui n'est quand même pas tout à fait normal. Donc ça permettrait aussi de remplir les caisses. Permettre à plus de femmes de travailler parce qu'aujourd'hui le taux d'emploi des femmes est quand même inférieur à 8 points par rapport à ceux des hommes. Et là il faut développer des politiques publiques pour notamment tout ce qui est question de
mais ça coûte de l'argent à développer les politiques publiques.
Ça c'est pas le problème de la CGT,
ça coûte de l'argent et c'est à un moment c'est kiff si ça coûte autant que ça rapporte.
À un moment donné la sécurité sociale c'est le fruit des richesses et des cotisations sociales.
Oui mais enfin madame, si on prend un exemple très précis qui est l'augmentation des fonctionnaires. Je vous rappelle qu'ils partent avec une pension qui est fixée sur les 6 derniers mois leur salaire. Donc si on augmente tous les fonctionnaires, ça veut dire qu'ils vont partir avec une retraite encore plus importante puisqu'on est toujours sur les 6 derniers mois. Je rappelle que chaque année, le gouvernement abonde de 30 milliards d'euros tous les déficits des régimes particuliers et des fonctionnaires. Donc ça veut dire que ça va coûter encore plus cher.
Mais non, parce que Céline, tu prends ma proposition à moi, c'est-à-dire que tu mets le même régime pour tout le monde.
On est bien d'accord.
Eh ben oui, tu mets
le même régime pour tout le monde. La CGT veut pas, Estelle.
Bien sûr que non.
Ah ben là, tu vas te faire bâché par Madame Verzetti, là.
Il faut différencier l'État. Bon, bref.
Bien sûr.
L'employeur État ne cotise pas. Donc,
bah non, c'est nous qui cotisons.
Je suis désolée, vous ne pouvez pas comparer ce qui n'est pas comparable. C'est comme si vous disiez que le patronat dans le privé, on lui demandait de ne pas cotiser. Il y a une part patronale au niveau du privé.
Il cotise, ça, je vous assure.
Eh bien, au niveau de l'État, c'est pareil. Il faut bien
c'est pas une cotisation, mais il y a quand même 30 milliards qui sont donnés chaque année pour subvenir aux besoins.
Mais ne cotise pas parce qu'il n'y a pas de partie patronale au niveau de l'État.
Mais il y a des finances publiques et le fait de ne pas cotiser, c'est un déguisement d'un déficit public.
Oui, mais bon, alors Céline, autre proposition, sinon.
Ah bah ça suffit.
Donc,
là.
Au niveau du financement, arrêtez la politique d'exonération des cotisations sociales qui correspondent à peu près à 75 milliards d'euros par an. Et ça, je pense que c'est un sujet politique. Alors, on peut être défavorable, mais il y a énormément d'exonérations de cotisations sociales. Et forcément, donc du coup, ça vide les caisses de la sécurité sociale.
C'est compensé par la CSG, mais plus d'un pour ces exonérations.
À un moment donné, pardon.
Nous payons tous pour ces exonérations puisque nous payons la CSG.
Exactement.
Donc tout ceci est compensé.
Non, c'est pas du tout compensé. Alors ça, je peux vous assurer que.
Julien Damoué est professeur en
sport. Du SMIC, il n'y a aucune cotisation patronale qui est versée.
Ah oui, mais on paye bien les prestations de sécurité sociale de toutes ces personnes qui n'ont pas cotisé parce que la CSG permet le financement du système. La CSG plus le déficit.
Le nombre d'heures d'antenne dans ce pays.
Par exemple, chez les fonctionnaires, vous savez qu'une grande partie de la rémunération des fonctionnaires, c'est en prime, et ça, ce n'est pas inclus dans le calcul pour les retraites.
Ah oui, parce qu'il n'y a pas de cotisation.
Si on élargissait cette assiette, ça remplirait aussi, ça permettrait en tout cas d'avoir plus de cotisations. Et donc, ça permet de nouvelles recettes, puisqu'on est bien sûr chercher des ressources et des recettes. Et il y a l'emploi. Après, bien sûr.
Rapide.
Il y a l'emploi.
Oui, bah oui, bah oui. Bah là, le chômage n'a jamais été aussi bas depuis des années. Donc là, pour le coup, l'emploi, ça marche plutôt bien. Merci Céline Verzelletti, en tout cas, d'avoir été avec nous. Et vous voyez, Daniel Riolo, il y a des propositions de la part de la CGT, même si elles ne vous plaisent pas, il y a des propositions quand même.
Non, mais le nombre d'heures d'antenne en France données à l'extrême gauche qui, derrière des propositions, de toute façon, ne souhaitent que l'explosion de la société et de reconstruction.
C'est pas ce que dit Céline Verzelletti.
Au fond, quand l'extrême gauche s'exprime, il faut comprendre à un moment que, de toute façon, c'est une refonte totale du modèle social. C'est-à-dire, il faut tout faire exploser et reconstruire une nouvelle société. L'extrême gauche, c'est ça. Donc, vous pouvez toujours essayer d'écouter leurs propositions, qui sont souvent bâties sur, en plus, sur des mensonges. Il suffit de prendre leurs propositions. Ça demanderait de telles réformes dans notre monde dans la façon dont on vit en société et la façon dont la France s'inclut dans le monde occidental, dans son rapport aux autres pays, que de toute façon, ça n'est pas possible. Mais continuons à écouter, à donner une place aussi grande à l'extrême gauche dans ce pays. On est le seul pays au monde où l'extrême gauche s'exprime autant. Pas de problème, continuons. Alors, continuons.
On a Ludo.
J'aimerais bien savoir quel autre pays
Thierry Bourquet a l'air de.
Il dodeline. Donc j'aimerais bien savoir.
Qui dodeline, c'est pas grave. Bon, on a Ludo, qu'on a retrouvé, on est ravis.
Taisez-vous.
Ludo, qui est donc cheminot depuis 17 ans, qui nous appelle de Damary-les-Lys, et on écoute. Ah, on vous entend mieux, Ludo, et ça, c'est un plaisir.
Ludo,
est-ce que vous allez vous bloquer ou vous mettre en grève pour protester contre la réforme des retraites?
Me mettre en grève, bien évidemment. Bloquer, je ne vois pas en quoi je bloquerais quoi que ce soit.
Vous bloquez les usagers quand même, Ludo.
Je suis juste en cessation de travail, moi.
Oui, c'est vrai.
Par contre, moi j'aimerais juste rappeler juste deux, trois petites choses. Monsieur Riolo, franchement, je vous apprécie quand vous parlez de foot, mais alors quand vous parlez de politique et d'économie...
Ah bah ça, c'est sûr, si on n'est pas d'accord, forcément.
Ah bah, on est bien d'accord.
Ah bah, donc voilà.
Vous êtes bien d'accord, vous n'êtes pas d'accord.
Ah oui.
Ok.
Disagree.
Juste pour information, un cheminot, puisque je suis cheminot, cotise à 8,52% au niveau de notre cotisation. Dans le régime général, on est à 7,30%. On veut la fin des régimes spéciaux. Ok, pourquoi pas. Alors, dans ces cas-là, qu'on commence déjà par augmenter mon salaire, puisque contrairement au privé, moi, qui suis agent SNCF au statut, je ne suis pas payé au SMIC. On en parle de ça ou pas?
C'est-à-dire, vous êtes plus que le SMIC?
Ah mais non, pas du tout.
D'accord, pas vous du gagnez tout. Combien, Ludo?
Ah bah, à l'heure actuelle, si vous m'enlevez toutes mes primes, mon traitement de base est inférieur au SMIC.
Bah c'est pas normal.
Pour un temps plein?
Pour un temps plein, bien évidemment.
Et mais avec ça, c'est pas
primes,
normal.
Vous gagnez combien?
Bah, concrètement, moi je regarde ce qui est écrit sur des sites gouvernementaux. Le SMIC actuel, il est à 1703 brut. Moi, mon traitement de base, il est à 1622 brut. On en parle de ça ou pas?
Mais Ludo, on est d'accord que c'est pas normal. Mais effectivement, est-ce que vous seriez prêt, je veux dire, à être payé au SMIC et à avoir, comme dans le privé, une retraite effectivement à 64 ans et pas, je pense que vous allez partir à peu près à 60 là avec la SNCF. Ça fait partie des avantages. Bah, vous allez partir à quel âge?
Non, justement pas, parce que quand j'ai signé mon contrat, on était aux 37 annuités et demi. Ouais. Au fur et à mesure, avec les réformes des retraites qui s'est passé, l'âge de départ de 64 ans, si je pars avant mes 64 ans, j'aurai une décote.
Oui.
Ah bah ouais, quel est l'intérêt? Donc là, concrètement, si je veux pas de décote, ça me fait 45 ans de travail. Oui.
Pour les Français, c'est 67 ans, le système avant la décote.
Non, mais attendez. Le 64
vous êtes toujours favorisé à la SNCF, on ne peut pas dire le contraire.
Mais favorisé de quoi?
Votre prime, elle est calculée sur les 20, sur les derniers mois, par
rémunérations qui sont plus importantes. Enfin bon, on peut en permanence dire oui, non, etc. Globalement, les cheminots pensent qu'ils sont les martyrs, mais je peux vous assurer que la plupart des Français, s'ils voyaient les chiffres, ils diraient que vous êtes plutôt favorisés. Quand on dit ça après,
moi, je vous donne un exemple tout bête. Je travaille donc depuis 17 ans à la SNCF. Je suis en horaire 3 et 8. Et je gagne entre 1900 euros et 2300 euros, voire 2004, un bon mois.
Bah, si vous n'êtes pas content, changez de métier. Qu'est-ce que je vous dise? Il y a des officiers qui travaillent 24 heures sur 24 et qui gagnent moins.
Est-ce que vous avez vu l'exode des cheminots qui quittent la SNCF, justement?
Oui. L'exode,
des milliards, de cheminots qui s'en vont.
Ludo, vous voulez quoi, en fait? Vous voulez que rien ne change?
Je veux bien évidemment que cette réforme des retraites, une fois de plus, ne soit pas appliquée.
Le statu quo, donc.
Donc on reste comme on est, quoi. On ne change rien.
Bah, malheureusement,
on n'a pas les moyens. Attendez, on est en train on est en train de mégoter sur la retraite des Français. Par contre, on est capable, au niveau du gouvernement, de trouver des 1000 et des 100 pour aller aider en Ukraine, aller aider à tel endroit.
C'est pas le même budget.
Voilà, voilà.
C'est pas le même budget, Ludo.
On creuse un peu, on arrive, on trouve les choses.
Ça vient quand même de la France, non?
Oui, mais c'est pas le même budget, vous le savez bien. Et puis, on n'est pas, c'est pas Astérix, la France. À un moment, on est quand même obligé de regarder, de regarder un peu autour de nous, Ludo. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Ludo Cheminot, depuis 17 ans. Juste, est-ce qu'à un moment, vous pensez que le gouvernement est capable de reculer? Parce que ce serait un énorme camouflet, Julien Damon.
Bah, s'il le fait, il se chiraquise. C'est ça l'expression, je crois, des éditorialistes politiques. C'est-à-dire que, bah, il ne ferait plus rien pendant les 4 ou 5 années qui lui restent. Bon. Ceci dit, il n'y a jamais un gouvernement qui a dit, je recule, je prends ma retraite par rapport au projet de réforme des retraites. Attends, ce qui va se passer, c'est que sur certaines dispositions, il va y avoir naturellement des transformations, des améliorations.
D'ailleurs, il peut y avoir des améliorations. Le texte peut bouger, mais, mais à la question initiale que Estelle t'a posée, s'il recule, pourquoi ce serait un camouflet puisque l'opinion
parce
le veut?
C'est la grande réforme de ces deux quinquennats.
Excusez-moi, à partir du moment où si le gouvernement recule et que visiblement il y a une grande majorité des Français souhaite ça. Et ben donc cette grande majorité va applaudir.
Le président de la République a dit que c'était une réforme vitale et primordiale.
Mais
s'il
ne la fait pas, ça va être moi, il y a quelque chose d'incohérent dans ce que vous dites. S'il recule parce que les Français veulent voir le gouvernement reculer, donc ces mêmes Français vont applaudir, ils vont dire bravo. Ah,
mais ça veut dire que maintenant il suffira de descendre dans la rue pour demander quoi, et à chaque fois il va
avec la suite. Ah bah je sais pas, moi je pensais qu'il fallait écouter les Français. Excusez-moi, je fais exprès de faire l'avocat du diable. Mais s'il faut écouter l'opinion et les Français dans ces cas-là, tout le monde va descendre dans la rue pour faire la fête.
Écouter les Français, c'est pas écouter l'opinion. Tu peux d'abord écouter les élections.
Essaye de comprendre ce que je dis. En quoi on veut dire que c'est un camouflet puisqu'on irait dans le sens de ce que veut la population.
C'est un camouflet par rapport au projet de réforme.
Vous répondrez après parce que comme vous êtes très nombreux à appeler et comme manifestement, vous avez très envie de continuer à parler des retraites. Bah, on va continuer à en parler dans un instant dans Estelle Midi. Le gouvernement doit-il reculer? On attend tous vos appels au 32-16 et puis on aura beaucoup, beaucoup de messages avec Rémi et puis Mathieu, tiens, qui est routier, témoignera sur ce plateau. À tout de suite sur RMC dans Estelle Midi.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
Midi 32 sur RMC, RMC Story, vous êtes dans Estelle Midi, on est ensemble jusqu'à 15h avec Rémi Barré, Daniel Riolo, Thierry Moreau et Julien Damon, avec vous également au 32-16 et sur l'application RMC. On parle des retraites, 72% des Français désormais opposés à la réforme des retraites, ça fait plus de 2/3 des Français. Le gouvernement doit-il reculer? C'est la question que nous vous posons et vous avez beaucoup de témoignages, Rémi, sur l'appli RMC.
Nombre de témoignages de personnes qui disent « je suis désolé, moi je fais partie de cette majorité silencieuse qui soutient la réforme des retraites ». J'entends le résultat de ces sondages, 72% de ceux qui ont répondu se disent opposés à la réforme. Je sais qu'il y a des inquiétudes autour de moi, nous dit Daniel, mais pourtant quand je discute avec mes proches, tout le monde se met d'accord pour dire qu'on ne peut pas continuer avec le système actuel.
Alors on a Mathieu qui nous a appelé au 32-16 depuis Rouen dans le Morbihan et qui est routier. Bonjour Mathieu.
Bonjour Estelle, bonjour tout le monde.
Bonjour.
Bonjour. Alors Mathieu, vous faites partie des 28% de Français plutôt favorables à la réforme.
C'est ça, favorable, oui, on va dire oui, parce que moi, ça fait déjà 20 ans que j'ai commencé à travailler, ça fait déjà 20 ans que j'entends que si ça reste comme ça, on n'aura pas de retraite plus tard. Je pense qu'à un moment, il serait peut-être temps de réformer quelque chose, et il faut y passer un moment ou un autre. Et moi, je suis un peu d'accord avec Daniel, je suis même très, très d'accord avec Daniel, parce que... on va dire aujourd'hui, c'est la réforme des retraites. Dans cette réforme des retraites, on aurait proposé aux gens de travailler, d'arrêter la semaine des 35 heures, de passer à 39 heures. Ils seraient pareils dans la rue parce qu'il faut travailler plus longtemps. À un moment, là, je pense que les syndicats, ils ont le mec, quand il rentre chez les syndicats, il dit « je suis syndicaliste, allez hop, mon rêve, c'est quoi? C'est faire retraite à 50 ans, tout le monde avec 5 000 € par mois et la semaine de 15 heures ». Ça, c'est leur but.
La semaine de
15
heures.
Non, mais attends, il a pas tort. Il caricature un petit peu, mais c'est l'idée. C'est l'idée. Il a raison.
Je suis dans la caricature, mais c'est la vérité. Les gens, maintenant, ils veulent plus travailler. Oui. Ils veulent plus faire de sacrifices.
Mais pas tous.
Alors, ils disent, non, mais bon, je me bats pour les autres, pour l'avenir. Mais pour l'avenir, aujourd'hui, la caisse des retraites n'est pas en péril, mais dans l'avenir, elle sera en péril. Donc, ils se battent pour qui? Ils se battent pas pour l'avenir. Ils en ont rien à foutre de l'avenir. Eux, dans l'avenir, ils seront en retraite. Ils ont eu leur retraite à 60 piges. Ils en ont rien à foutre. Nous, on va dire, dans plus tard, moi, dans 20 ans, dans 25 ans, quand je serai à la retraite, j'ai envie d'avoir ma retraite. Donc, du coup, bah s'il faut faire des sacrifices, bah arriver à un moment, c'est peut-être pas dans le langage des 72% des Français, mais le sacrifice ça existe. Et puis si c'est pour avoir une vie, on va dire meilleure, un système qui tient la route dans 30 ans, dans 40 ans pour l'avenir, bah il faut savoir faire des sacrifices. Arriver à un moment, faut dire bon bah voilà, bah je vais prendre sur moi, je fais mes sacrifices et puis c'est bon quoi, on va accepter la réforme quoi.
Il est rare hein, ce témoignage, Mathieu. En tout cas, bravo à vous et puis merci d'avoir été avec nous sur RMC parce que c'est vrai que voilà, il est plutôt en minorité.
Oui, mais
Mathieu,
il a raison,
on va dire en ce moment. Oui,
il a raison en fait parce que moi demain, quelqu'un me sonde dans la rue et me dit est-ce que vous préférez partir à 60 ou à 62 ? Je vais dire évidemment que j'ai envie de préférer partir à 60.
Oui, mais si on te dit est-ce que tu veux dire,
mais ça dépend
Thierry,
pourquoi non,
mais
c'est si ce que je veux dire, ça, non, que tu vas y partir
par là, j'aurais juste terminé ma phrase. Ce que je veux dire par là, c'est que la communication du gouvernement elle a évolué. Au début, on a dit c'est une réforme nécessaire. Une réforme juste. Maintenant, il y a eu un glissement de communication et on dit on va demander un effort un peu à tout le monde. Quand on demande des efforts aux gens, à tout le monde, eh bien,
ouais, mais c'est pas naturellement, les, mêmes efforts en fonction des gens,
les gens qu'on sonde, ils n'ont pas forcément envie de faire cet effort et pourtant, il est nécessaire pour te rejoindre.
Oui, mais si on te dit, Thierry, est-ce que tu es opposé ou pas à la réforme des retraites, tu dis quoi ?
Ah, moi, je suis pas opposé. Je suis pour cette réforme de retraite.
Donc, celle-là ?
Oui.
Celle-là même ?
Oui, avec des aménagements.
Ah, bah oui, donc t'es aménagements. Pas
aménagement,
pour...
amélioration.
Oui, bien sûr.
Oui, donc,
sur
donc
les seniors.
Pas
oui, je pense qu'il y a des choses, qui peuvent être arrangées. Mais j'en reviens quand même tout à l'heure à ce qu'on disait sur l'ambiance dans laquelle on est en ce moment avec les oppositions qui, soi-disant, proposent des choses. Je vous conseille alors on va dire que c'est un hebdomadaire macroniste, Le Point, je sais pas si ça l'est vraiment, je ne crois pas.
Pas spécialement.
Oui, non.
Pas spécialement.
C'est pas spécialement mélenchoniste non plus.
Oui. Voilà. Bon, bref. Voilà. Mais ça reste.
Bon, bah, allez.
Il faut que m'interrompre. Bon, le numéro d'aujourd'hui, sur les mensonges et les gros mensonges des opposants. Avec des phrases qui rentre dans la tête des gens, qui martèlent comme ça. J'en ai relevé 3-4. Par exemple, quand Jordan Bardella répète partout qu'en fait cette réforme elle est voulue par l'Europe. C'est complètement faux. Martinez, 10 milliards, ce n'est pas un gouffre. Il dit ça partout. Oui, sauf qu'il oublie de dire que ça va être progressif et que ça va être plus à chaque fois. Ça aussi, ça rentre dans la tête des gens. Mélenchon qui balance sans arrêt. Personne ne paiera la dette publique. Ah bon, oui. Voilà, je suis content de te faire rire.
On paye pas la dette, mais on paye les intérêts.
On la paye. Anne Hidalgo qui est sérieusement a dit.
Non, bah vas-y.
Quand j'ai prononcé son nom, j'ai vu ta tête, Estelle, c'est un peu drôle. Un quart des Français sont morts à 62 ans.
Ce qui est faux.
Ah bon.
Un quart des Français pauvres.
Ah bon.
Un quart des Français pauvres, ce qui est tout aussi faux d'ailleurs, mais faut être précis.
Voilà, ça, c'est des phrases comme ça.
S'il vous plaît.
Et puis, la nouvelle femme forte de LFI, Mathilde Panot, les inégalités n'ont jamais été aussi fortes en France.
C'est faux.
Voilà. Et tout ça, sur les plateaux. Non, mais il n'y a pas d'accord, c'est important, Estelle. Non, mais la façon dont tu es d'accord.
Non, c'est très important. Bah, c'est dit, bon.
Parce que ce sont des opposants. D'accord. Qui viennent, qui balancent ça comme des slogans.
Oui.
Ce sont des mensonges.
Enfin, t'as aussi des phrases du gouvernement qui sont des mensonges.
Bien sûr.
Désolé.
T'en veux, oui. Bah, Macron sur le nucléaire a beaucoup menti aussi. Mais ça n'a rien à voir avec les retraites.
Mais même Riester sur les retraites, enfin,
oui.
Écoute.
Oui,
il y a un régime spécifique pour les électriciens gaziers, donc il y a un lien. Bon, plus sérieusement, je pense.
Et pour les membres de l'Opéra de Paris, mais enfin bon.
Oui, plus concernant le monde. Non, mais il y a un sujet grave, je trouve, derrière cette affaire de réforme des retraites, puisque rappelons-le, en 2000, juste en période pré-Covid, était au Parlement une réforme qui était bien plus copieuse, bien plus structurelle.
Avec
Thierry en a dit un mot, avec entre autres choses une réforme par points, introduction de capitalisation, fusion de tous les régimes, et l'opposition était dans la rue, mais elle était moins virulente qu'aujourd'hui.
Absolument.
Ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui nous vivons une crise, pas de l'expertise publique, mais du débat public. Pas généralement, mais dans cette affaire. Puisque le Conseil d'orientation des retraites, le COR, a été cité tout à l'heure, tout le monde sait à peu près ce qu'est le COR. Tout le monde voit qui est son président, un HEC Énarque, ancien directeur de la sécurité sociale qui maîtrise très bien ces dossiers, mais on oublie de dire que le COR, eh bien, fait des scénarios et en fait une dizaine extrêmement variés, extrêmement différents,
des simulations,
fait des projections.
Donc on peut prendre des dépenses.
Et pour le moment, le problème, c'est qu'on en prend un peu tout ce qu'on veut les uns les autres, mettant de côté des choses très claires que sont les réalités démographiques. S'il faut faire bouger, s'il faut des efforts, c'est tout simplement parce que tout va mieux. Nous vivons de plus en plus longtemps, nous vivons mieux de plus en plus longtemps, et c'est pas un effort qu'il faut faire. C'est tout simplement qu'il faut s'adapter à la vie humaine qui se transforme. C'est pas un sujet simplement de petits paramètres.
Et ça ne veut pas dire qu'on ne prendra pas en compte un critère très important, celui de la pénibilité.
Exactement.
Parce que pour tout le monde, ça n'est pas pareil de travailler. Ça, on est tous d'accord là-dessus.
En parlant de pénibilité, il y a Marie qui nous appelle de Chambly dans l'Oise et qui est assistante maternelle. Bonjour Marie.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Alors vous faites un métier pénible, Marie, pour le coup, assistante maternelle, c'est pas de tout repos.
Oui, mais on n'est pas reconnu comme dans la pénibilité, malheureusement.
Exactement.
Déjà, absolument. On n'est pas un métier reconnu, déjà. Donc,
c'est vrai.
Donc là, déjà, ça résout les soucis. Et alors, donc moi, je suis contre la réforme des retraites. Mm-hmm. J'ai fait grève le 19, je fais grève le 31, et je ferai grève si ça continue. Et moi, je demande qu'une chose, c'est le blocage du pays. Parce que là, on ne peut plus vivre, en fait. On a un métier, entre les parents qui refusent de nous payer et qu'on leur soutient le fait de ne pas nous payer, on ne leur dit rien. Ils continuent à ne pas nous payer, ils continuent à recevoir les aides.
Ça, c'est vrai que ça arrive.
Et nous, entre-temps, on n'est toujours pas payés et on a tous nos galères et on a un métier qui n'est pas reconnu.
Vous gardez combien d'enfants par jour, Marie ?
4 enfants.
Ah oui, c'est beaucoup.
Ouais. Trois enfants et un périscolaire, en fait. Donc, ça fait quand même 4.
Pardonnez ma question, je ne veux pas vous choquer, mais en quoi assistante maternelle, c'est un métier pénible ?
Tu plaisantes ou quoi ?
Non, mais je veux savoir, je suis ignorant.
4 enfants par jour.
Je suis ignorant, je veux savoir, parce que je l'ai
en
fait.
En bas âge ?
Je l'ai fait pendant un an, ce métier. Donc, c'est pour ça que je veux savoir.
Tu fais babysitter.
Non, c'est pas pareil. Non, non, assistante maternelle. Donc,
4 enfants, je veux juste comprendre. Dans la journée,
je veux comprendre. Si Marie veut bien m'expliquer, j'ai pas de problème.
Par terre avec les enfants à 4 pattes. Les lever du lit, les remettre dans le lit. Moi j'ai les épaules qui sont bousillées, le dos qui est bousillé. Je me vois pas travailler jusqu'à 64 ans.
D'accord.
J'ai 56 ans. Je suis usée.
D'accord.
Je comprends.
Et on a un métier, on n'a pas de médecine du travail, donc on n'a aucune reconnaissance en fait.
Mais alors justement, dans le nouveau dispositif, vous serez normalement vu par un médecin qui définira si oui ou non votre état vous permet d'aller jusqu'à 64 ou pas. Et si pas, vous serez à ce moment-là bénéficiaire d'une réduction de votre temps de travail.
Marie, la réforme, elle vous fait travailler combien de temps de plus ?
Eh bien, moi, ça me fait travailler 2 ans de plus. Ouais. Alors, il me manque un trimestre et demi pour être en carrière longue.
Ouais.
Et pour un trimestre et demi, je vais me bouffer 8 trimestres.
Là, on peut comprendre votre désarroi, évidemment.
Si on a on n'a pas les annuités, on continue à travailler. Si on a le nombre de trimestres, pourquoi continuer à travailler 43 ans ? Moi, je comprends. Et en fin de compte, je vais avoir... Parce que j'ai quand même commencé à 18 ans, mais je n'ai pas le nombre de trimestres. Mais j'ai quand même commencé à travailler à 18 ans. Donc, je vais me bouffer 45 ans de travail, moi, en fait.
Ou alors, faut racheter les trimestres.
Oui, mais moi, j'ai pas les moyens de les racheter.
Je sais bien, Marie. C'est une solution, effectivement, mais voilà. Et ça dépend de combien vous gagnez. Mais franchement, moi, je le comprends, votre désarroi. Vous deviez travailler un trimestre et vous devez travailler 8 dans un métier qui est pas facile parce qu'encore une fois, 4 enfants. En plus, Marie, elle a pas parlé d'un truc, mais c'est le bruit. Il y a le fait de les porter, etc. Mais le bruit, déjà.
Le point de blocage sur cet axe pivot légal butoir de 64 ans.
En fait, on voit qu'il y a énormément de cas particuliers et c'est en ça que cette réforme, elle est très difficile.
Mais on s'aperçoit encore une fois que c'est plus globalement le rapport au travail qui a considérablement changé parce que. Je veux pas du tout contredire Marie et tout, mais je pense qu'il y a quand même des métiers encore plus difficiles que ça.
Mais il y a toujours difficile.
Mais c'est pour ça que si on recule tout le temps le concept de pénibilité où on a commencé il y a 100 ans dans la mine, plus le travail à la chaîne, là on parle de vrai, selon moi, un métier qui était pénible, à maintenant assistante maternelle. On va pouvoir étendre le concept à l'infini
jusqu'à journaliste et chroniqueur.
Tu gardes les enfants des autres. T'as une responsabilité qui est énorme quand t'es assistante
maternelle. Je te parle pas de responsabilité.
Est-ce que c'est pénible?
Bah donc un chef d'entreprise, il est responsable. Est-ce que c'est pénible, pas pénible? Jusqu'où on va aller à l'extension du concept?
Mais assistante maternelle,
c'est pas un enfant. Je parle de relations au travail, c'est qu'aujourd'hui j'ai le sentiment plus globalement dans notre société que je sais pas, il y a des sondages tous les jours, mais que à 80% les gens vont dire j'aime pas le travail que je fais, c'est pas la pénibilité physique.
Par métier, mais créer une pénibilité individuelle, c'est-à-dire qu'à un moment tu passes devant un médecin qui te dit vous n'êtes plus en état de continuer de travailler.
C'est pas la pénibilité, c'est simplement d'être apte ou non.
C'est apte ou non, c'est en bonne santé ou pas en bonne santé. C'est pas la même chose, c'est pas la même chose.
Pour dire, ça sera très social-démocrate, que je suis à la fois d'accord avec Daniel sur l'extension infinie de la pénibilité, ça ne peut pas marcher, et sur les difficultés de Marie, mais pas seulement au regard des retraites. assistante maternelle, c'est un métier difficile, compliqué, mal payé, qui mérite d'être mieux reconnu. Je ne sais pas s'il faut partir plus tôt ou plus tard à la retraite, je ne sais pas s'il faut des critères particuliers de pénibilité, mais assistante maternelle, c'est un métier compliqué, difficile, et qui surtout aujourd'hui est mal rémunéré, comme vous l'avez dit, Marie.
Mal rémunéré, c'est autre chose.
Oui, mais dans la pénibilité,
si tu es mieux rémunéré, tu cotises plus.
Exactement. Merci Marie, en tout cas, d'avoir été avec nous et de nous avoir exposé votre cas. On a fait un sondage sur le compte Twitter d'Estelle Midi. 72% des Français contre la réforme des retraites. Le gouvernement doit-il reculer, Rémi? J'ai une petite idée sur le résultat de ce sondage.
Chez nous, c'est plus.
Ah bon?
Plus que 72%.
Ah. En tout cas,
pour ceux, qui sont prononcés sur les réseaux sociaux, 76% de ceux-là estiment que le gouvernement doit reculer.
Voilà, trois quarts de nos auditeurs et nos téléspectateurs. Dans un instant, Anthony Morel, on va parler des JO. C'est dans un an et demi et il y a une polémique sur les JO. Vous savez, c'est les caméras de surveillance qui vont être installées. Anthony Morel va nous expliquer en quoi elles consistent, ces caméras. A tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Midi 49 sur RMC, RMC Story, vous êtes dans Estelle Midi et c'est le moment d'accueillir Anthony Morel. On n'arrête pas le progrès.
RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Anthony Morel, nous sommes à un an et demi des Jeux Olympiques, comme le temps file vite, et nous avons une polémique sur ces JO, enfin bon, il y en a plusieurs. Mais on va s'intéresser à la polémique sur la surveillance électronique. Voilà, des caméras vont être installées et certains ne sont pas d'accord. Mais absolument. Elles vont servir à quoi ces caméras?
Alors c'est ce qu'on appelle des caméras augmentées, donc pour le dire clairement, c'est des caméras de vidéosurveillance, ça on connaît, mais qu'on va coupler à de l'intelligence artificielle, en fait à des algorithmes, des logiciels, qui vont être capables de manière autonome de détecter des choses bizarres, des comportements problématiques. Donc par exemple, ces caméras, elles vont être capables de détecter, je sais pas, un début de bagarre, un mouvement de foule, un colis abandonné, un comportement suspect aussi, une personne par exemple qui marche en sens inverse du reste de la foule ou qui a un comportement un petit peu bizarre.
C'est suspect, ça?
Enfin, ça peut être suspect. C'est, enfin, en tout cas, il y a un certain nombre de paramètres qui vont être analysés pour prévenir les forces de l'ordre qu'il y a un truc bizarre qui est en train de se passer. Donc ça va permettre de mieux les orienter et de gagner du temps. Le but étant lutte contre le terrorisme évidemment et d'éviter, même si c'est pas écrit dans le texte de loi, un fiasco comme celui qu'on a connu lors de la finale de Ligue des Champions au Stade de France avec tout le monde au-dessus des portiques, les violences, etc., etc. Alors le truc, c'est que ça ne plaît pas à un certain nombre d'élus, alors de l'opposition, des écolos, communistes, etc.
Oh, c'est pas vrai.
C'est étonnant. Des associations aussi de protection des libertés individuelles et la CNIL évidemment, qui est dans son rôle, la Commission nationale informatique et liberté pour le coup. Alors ils disent oui, c'est parce que ça risque de donner une collecte massive d'informations personnelles et une surveillance en temps réel. En vrai, la crainte sous-jacente derrière tout ça, c'est que ces technologies, si elles fonctionnent, eh bien, elles soient pérennisées et qu'en fait, elles s'installent dans notre vie quotidienne après les Jeux Olympiques.
Bah c'est ça, parce que tu vas les laisser les caméras.
Bah évidemment, en fait, on va pas les enlever.
Pour les Parisiens, mais ça veut dire que ça fait quand même beaucoup de policiers.
Ça fait beaucoup de policiers, quoi, les caméras.
Bah oui, pour regarder tout ce qui se passe.
Bah non, mais justement, en fait, l'intérêt des caméras, c'est qu'elles vont pouvoir se débrouiller toutes seules. Elles vont pouvoir alerter les policiers et mieux les diriger sur des zones où il y a potentiellement un problème. Donc ça va leur faire gagner du temps. On va pas avoir plus de policiers. En revanche, on va avoir plus de technologies au service des policiers. C'est ça qui va être très intéressant.
Est-ce que ces caméras, elles peuvent identifier les personnes? C'est-à-dire que, par exemple, moi, je passe sous une caméra et la caméra tout de suite va voir que c'est moi, quoi.
Non, elle saura pas que c'est vous. Non, il y a clairement pas de reconnaissance faciale. Ça n'est pas dans le texte. En fait, tel que le dispositif est prévu, il s'agit juste de détecter des comportements étranges pour aider la police à interpeller de manière plus efficace. Rien de plus. Et donc, quand on parle de
problème.
Voilà, c'est bien, c'est toute la question, c'est ce que je veux.
Merci pour cette chronique.
Mais non, mais c'est le truc, c'est, est-ce qu'il n'y a pas un peu de démagogie? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on ajoute une petite brique de surveillance, on nous brandit le spectre de 1984, George Orwell, etc. Alors qu'en réalité, là, très clairement, il n'y a pas vraiment ce danger-là. En tout cas, pas tel que le texte est écrit. Après, si on pousse le curseur un petit peu plus loin, alors c'est aussi ça le truc, c'est qu'avec la surveillance, ça fonctionne un petit peu par. Il y a des effets cliquets. Donc là, on arrive à la caméra intelligente. L'étape d'après, c'est effectivement d'intégrer de la reconnaissance faciale avec des systèmes qui sont capables d'identifier des personnes. Ça a déjà été testé en France, par exemple, en 2019, lors du Festival de Cannes. Mmh. Ça a été testé aussi par des équipes de foot, par exemple le FC Metz, à proximité du stade, pour identifier des personnes qui sont interdites de stade, encadrées par la CNIL. Mais la CNIL a dit non,
c'est pas possible.
Non, alors ça fonctionne. Technologiquement, ça fonctionne. La techno, elle fonctionne. Il n'y a pas de souci. Simplement, là encore, la CNIL a jugé que c'était trop intrusif et que donc, on arrêtait ce genre de choses. Donc voilà. Mais ça, on peut avoir un débat de société. Tel que c'est, franchement, dans le texte pour les Jeux Olympiques de 2024, moi, franchement, à mon avis, en connaissant un petit peu ce qu'il y a dans ces technologies, je vois pas en termes d'intrusion de la vie privée, enfin, par rapport aux données personnelles que vous laissez toute la journée sur Internet, mais c'est vraiment peanuts, c'est rien du tout.
S'il y a une alerte pour un mouvement de foule,
voilà, ça ne concerne pas personnellement.
Je vois pas en
donc voilà. ça gêne. Les...
Alors, on sait que souvent, on est un petit peu en retard sur la Chine, mais qu'on y arrive toujours, Anthony Morel. Au niveau des caméras, ils en sont où?
Alors, ils sont très, très loin. Mais alors, je ne sais pas si on a envie d'aller jusque-là.
Dites-nous et on va vous dire.
C'est des caméras de vidéosurveillance partout et surtout une base de données biométriques qui permet, pour le coup, d'identifier n'importe qui, n'importe quand. Parce que là, quand je vous parlais de reconnaissance faciale en France, si hypothétiquement on installait ça, ce serait pour pouvoir détecter, par exemple, des personnes qui sont déjà connues des services de police. Oui. Donc, c'est pas
recherché, fichier.
Je ne sais pas si vous êtes recherché, j'en sais rien, mais enfin, en tout cas.
Pas encore.
Moi, a priori, les caméras ne reconnaîtraient pas. Mais sans aller jusqu'en Chine, je veux dire, dans les pays européens, on commence à voir aussi ces technologies s'installer. Hein. En Angleterre, vous avez, par exemple, dans les cantines scolaires, on commence à avoir des caméras de vidéosurveillance pour détecter la présence d'intrus dans les écoles, par exemple. En Allemagne, ils commencent à avoir des caméras intelligentes pour détecter.
Fruits et légumes, c'est important.
Ouais. C'est ça.
Non, c'est un intrus.
On a repris de photos.
Tu as repris du ketchup.
Ouais, c'est ça. On a piqué un yaourt.
Et donc en Chine, il y a des exemples marquants en ce moment ou pas?
Alors, il y a des trucs, par exemple, ils ont mis en place, alors c'est des chercheurs pour l'instant, mais une caméra ultra puissante qui est capable, vous la mettez dans un stade, vous faites une photo panoramique, elle prend en photo les 50 000 personnes qui sont dans le stade, et elle est capable, en zoomant, vous pouvez identifier n'importe qui sur la photo.
Ah ouais?
Ouais, instantané.
Extraordinaire.
C'est incroyable. C'est vraiment un œil numérique. Alors là, pour le coup, là, quand on parle de Big Brother, là, peut-être qu'on est un peu plus dans le vrai, si vous voulez, par rapport à ce qu'on nous promet pour les Jeux Olympiques. C'est un peu de la petite bière, on va dire comme ça.
Merci beaucoup Anthony Morel, tous les jours midi 50 dans Estelle Midi, on n'arrête pas le progrès. Et puis bien sûr, la chronique d'Anthony Morel, elle est disponible en podcast sur l'application RMC, sur rmc.fr et sur toutes vos applis de podcast. Dans un instant, on s'intéresse à l'enquête de 60 millions de consommateurs sur les services publics. Numéro 1, joignable, dysfonctionnement, réponse inadaptée. Faut-il remettre de l'humain dans ces services? À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h,
Estelle Midi.
RMC Football. Samedi à 15h au stade de la Mosson à Montpellier, c'est la finale de la Coupe de France féminine. Le Paris Saint-Germain affronte le FC Fleury 91 pour un match au sommet. Qui décrochera le titre? Réservez vos places sur billetterie.fff.fr. PSG Fleury. Finale de la Coupe de France féminine, samedi à Montpellier avec RMC.